Bien, Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Je sais que ces vidéos vont surtout partir en Afrique. Et vous voyez, on est obligé de s'habiller chaudement parce que dehors, il y a à peu près ça de neige, et sans parler de la glace. Et voilà ce que ça fait. On a froid. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des pieds gelés. J'arrive pas à me les réchauffer. Oui, vous avez froid aussi. Hein? Bon, ce soir, on va se réchauffer avec la parole de Dieu. Mais merci quand même, je crois que c'est Stéphane qui est venu faire le feu, c'est ça, avec Marie-Claire? Que Dieu vous bénisse, parce que sans ça, ma mamie. Voilà, Nicolas, il est tout content, il a retrouvé son soleil, mais il aimait bien voir la neige tomber aussi. Et puis, j'ai des salutations à vous faire de la part de Lucienne. Qui se souvient de la sœur Lucienne qui était venue avec son mari ici, je crois que c'était l'été passé. Alors, elle est à Cotonou, alors elle a voulu me faire un petit coucou, donc voilà. Comme je sais qu'ils écoutent toujours les prédications, eh bien que Dieu les bénisse, elle et son mari qui est resté sur Paris. Et voilà, c'était très surprenant, juste à la fin de mon message, j'ai reçu un petit coup de téléphone là, sur Lucienne. Elle me parle comme ça. « Mon pasteur !» Je sais tout de suite que c'est Lucienne, hein. Il y a qu'elle qui me parle comme ça. c'est formidable. Bien, Matthieu chapitre 5, versets 21-26, s'il vous plaît. Alors, c'est une étude. Je ne fais pas exprès, je dis ce qui se trouve dans le texte là, et je fais l'étude par rapport au texte qui est là. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'arrange mes bidons ou d'une manière ou d'une autre, pas du tout. Simplement, on a commencé il y a, ça fait maintenant deux, trois mois, hein, cette étude sur les... Donc voilà, je fais la suite, on continue. C'est donc Matthieu 5, 21-26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la gêne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Dieu vous bénisse. Donc c'est une lecture qu'on a faite déjà la dernière fois, vous vous souvenez ? On avait pris ce texte, mais je n'avais pas été jusqu'au bout parce que c'est très riche. Donc, il faut prendre les choses correctement. Je suis sûr qu'il y en a qui m'échappent, hein, mais disons que j'essaye le plus possible d'être pointu et de faire de cela une étude pour qu'on puisse marcher dans la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais revenir sur les parallèles que Jésus fait quand il parle du meurtre et de l'insulte. Et on voit que c'était pris très très au sérieux, puisque l'apôtre Jean, plus tard, quand il écrit sa lettre, dans 1 Jean 3,15, il dit « Quiconque est, du verbe haïr, quiconque est son frère, est un meurtrier. » Vous voyez qu'ils ne vont pas par quatre chemins. Hein? Et il dit « Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc, ce n'est pas léger. C'est quand on dit « Ah, mais maintenant, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Ça a l'air de dire « Maintenant, c'est plus facile. » Non. C'est pas plus facile. Jésus a amplifié la nature des commandements, il a amplifié la nature aussi des châtiments. On va voir ça. Dieu, donc, on le sait, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. À ses yeux, tout est lumineux. Et la colère injuste, vous vous rappelez que le texte ne parle pas de la colère. Il dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher. La colère de Dieu, la colère de Jésus dans le temple, etc. Ils n'ont pas péché, ils ne pêchent pas, Dieu ne pêche pas. Mais, et puis nous aussi, on peut se mettre en colère d'une façon justifiée. Mais quand c'est une colère injuste, ou alors avec les insultes, on exprime là un désir qui est terrible. C'est le désir de voir que la personne contre qui on est en colère meurt. Oh, s'il pouvait crever celui-là. Terrible, hein? Terrible. Alors, une pensée comme celle-là... Les gens ne la voient pas. Un tribunal ne peut pas avoir une pensée comme ça. Personne sur la terre peut juger une pensée comme ça. Mais Dieu qui voit tout, eh bien, il sait que c'est une violation au 6e commandement. Tu ne tueras pas. Celui qui commet donc, qui a de telles pensées, il est passible de la même peine que celui qui tue réellement. C'est comme par exemple pour l'adultère, si tu en as la pensée, si tu cultives cette pensée, et bien c'est comme si tu l'avais fait. Vous voyez? Donc Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit, il la rend ample, il donne sa version, son interprétation de la chose, et on s'aperçoit que c'est encore plus grave qu'on pensait. Évidemment, comme je vous le disais, un tribunal, il ne peut pas recevoir une accusation. Oui, un tel, il a une pensée de meurtre à mon égard. Aucun juge va juger ça, une pensée, n'est-ce pas? Il ne va pas pouvoir condamner une personne pour cela. Alors, mais Dieu, oui, Dieu, il peut, et il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus, ici, lance un avertissement solennel quant au jugement de Dieu. Ce n'est pas de la rigolade. La loi de Moïse n'est pas rigolote, et l'interprétation que Jésus en fait n'est pas rigolote non plus. Les rabbins, eux, ils jugeaient, ils condamnaient sur la terre. Te mettaient en prison, te faisaient payer ta dette, enfin, tu avais toutes sortes de problèmes. Mais c'était râle et pâquerette. C'était sur la terre. Il n'était pas question de après, la vie éternelle, comment ça se passe. Jésus, lui, il parle du jugement divin. Il parle du jugement divin. Il met une notion plus importante encore. Tout ça, tout ce qui échappe au regard des tribunaux humains, n'échappe pas, donc, au regard de Dieu, et tout cela sera jugé au tribunal divin. Alors, beaucoup disent, oui, mais nous, on est sauvés par grâce, nous, on ne passera pas au tribunal, alléluia, les choses sont gras, on va aller directement au ciel. Non, il y aura un jugement, et là, on sera récompensé selon nos œuvres, mais pas seulement récompensé, vous allez voir. Alors, que fait Jésus? Abolit-il la loi de Moïse? Non, il l'amplifie. Je répète, il amplifie la nature de la peine comme il multiplie la nature du crime. Tu fais l'adultère, c'est grave. Tu penses seulement, vous voyez, il amplifie la nature de la chose. C'est pareil. Donc il ajoute après, si donc, ou dans d'autres versions, quand donc tu as ceci, cela, et il donne deux exemples, il va se lancer dans une explication pour montrer que la colère sans cause et les insultes sont graves et dangereux, mis au même plan que le meurtre. Alors, il faut éviter ça comme la peste. Et quand la colère monte dans nos cœurs, le conseil qu'on peut retirer, le numéro un, c'est il faut réagir rapidement. Rapidement, c'est possible que ça vienne, c'est pas un péché forcément que ça vienne, mais ça peut le devenir. Donc, il faut réagir rapidement. Alors, il nous parle de deux exemples. Le premier exemple, c'est celui des offrandes qu'on fait à Dieu. Et le deuxième exemple concerne les charges que quelqu'un pourrait avoir contre vous, contre moi, et puis donc qui va se plaindre au tribunal, et voilà. Donc, Jésus parle à une époque qui n'est pas notre époque. Évidemment, le temple à Jérusalem existait encore du temps de Jésus, il y avait encore les sacrifices, donc ils allaient apporter tous les animaux là-bas pour sacrifier, et nous, on ne fait plus de sacrifices. De nos jours, il n'y a plus de sacrifices d'animaux, mais un vrai disciple offre quand même chaque jour des sacrifices à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Qu'on offre chaque jour des sacrifices à Dieu. Dans Hébreux 13, 15, il est dit, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Ça, c'est un sacrifice qu'on fait pour Dieu. Ensuite, dans Apocalypse 5, 10, il est dit qu'on est un peuple de sacrificateurs. On sacrifie quoi? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement, voilà, le nom de Jésus. Ce n'est pas le fait de confesser le nom de Jésus qui est un sacrifice, mais ce que ça produit, c'est ça qui est un sacrifice. On offre quelque chose à Dieu. Quand on confesse le nom de Jésus devant les gens publiquement, on offre quelque chose à Dieu. Quoi donc? Les personnes qui nous entendent. Vous comprenez? Je relis le verset, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, il dit, c'est-à-dire le fruit, le résultat de ce que les lèvres, le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Ça va très très loin. Alors, ne nous présentons pas devant Dieu avec des prières et avec des louanges si on a dans le cœur des choses contre un frère ou contre une sœur, parce que Dieu voit tout, il connaît, il sait ce qu'il y a dedans. Et il ne peut pas agréer ses prières, il ne peut pas les exaucer, il peut pas, il n'est pas honoré par les louanges. Il ne peut pas. De même, ne prononce pas publiquement le nom de Jésus pour lui donner gloire en racontant les merveilles de Dieu, si dans ton cœur tu as quelque chose contre un frère ou une sœur. C'est ce que Jésus dit. Parce que Dieu le voit. La personne à qui tu parles, elle ne sait pas, elle dira « Ah, c'est formidable, c'est merveilleux », mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Moi, je dirais plutôt l'imprimatur, c'est-à-dire le oui, le amen de Dieu sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur ton témoignage, sur ta prédication. Alors, vous voyez pourquoi Jésus nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire qu'il faut traiter ça rapidement. Il ne faut pas laisser traîner les choses. On doit communiquer rapidement avec les personnes contre qui on a quelque chose. Parce que sinon, eh bien, il y a tout un processus qui se déclenche et c'est ce qu'on va voir avec la parole de Dieu. Va trouver ton frère, réconcilie-toi avec lui et puis reviens, puis fais ton sacrifice de louange à Dieu. Et puis aussi, parler, va témoigner, va prêcher, voilà. Mais pas avant, parce que ce que tu fais là, c'est tout ce que tu fais, c'est rien aux yeux de Dieu, si ton cœur n'est pas pur de ces choses-là. Si on ne fait pas selon les règles spirituelles que Jésus donne, en amplifiant la loi de Moïse, eh bien, Jésus nous dit clairement ce qui va arriver. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère ou sur ton irritation. J'ai trouvé dans la Thomson, la nouvelle Thomson, le soleil ne se couche pas sur ton irritation, virgule, ne laisse pas de place au diable. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le diable? Eh bien, au tribunal divin, il n'y a pas que des avocats. Hein. On dit toujours, oh, Jésus-Christ est notre avocat. Oui, mais il y a aussi un accusateur. Et l'accusateur, c'est le diable. Apocalypse 12, 10. Donc, si tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, c'est-à-dire si tu ne règles pas la chose, si tu ne communiques pas, si tu ne règles pas tout de suite, tu laisses la place au diable. C'est-à-dire que tu laisses la possibilité au diable de se présenter devant Dieu, qu'il va faire des couvertes devant Dieu, comme quand il est allé, vous avez connaissé dans Job, hein, il vient devant Dieu, puis il fait des salamalek, et puis il dit, t'as vu Michel Janton, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, t'as vu? Et il accuse. Dans le cas où tu as quelque chose contre ton frère, que tu es irrité contre lui, avec ou sans raison, parce que bon, il ne faut pas accuser sans raison, il ne faut pas se mettre en colère sans raison, mais avec raison non plus, puisque même nos ennemis, on doit les aimer, on doit les bénir. Donc, si tu es irrité contre quelqu'un avec ou sans raison, tu ne dois pas laisser ça en toi, tu ne dois pas. Si tu fais ça, si tu laisses ça en toi, tes sacrifices ne sont plus agréés, tes louanges, tes prières, c'est mis au panier directement, ça n'est pas pris en compte. Et alors, l'accusateur, le diable, est ton accusateur, pas l'accusateur de la personne contre qui tu as des avec qui tu as des problèmes. C'est grave! Il ne perd pas son temps à accuser celui qui t'a offensé. Celui qui a péché contre toi, non, il ne perd pas son temps. Bon, il le fait aussi. Mais ce qui est à prendre en compte, ce que Jésus veut relever là, c'est qu'il t'accuse toi, nuit et jour, c'est écrit dans Apocalypse 12, 10. Nuit et jour, c'est-à-dire que le jour, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu construis, il est là, il lime Dieu, il accuse, il t'accuse, il accuse. Tu crois que tu vas dormir, tu vas te reposer, que tu vas être bien. Non, ça ne va pas s'arranger. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, il lime Dieu encore avec ça. Il t'accuse pendant que tu dors. Là. Lui, il travaille, il t'accuse. Et il se sert des Écritures, c'est-à-dire il se sert de la loi de Dieu. Dieu a donné une loi, Dieu a donné des principes. Si on ne fait pas ce qu'il dit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Et c'est pourquoi nous devons tous faire attention de ne pas irriter nos frères et nos sœurs. Parce qu'en faisant ça, en irritant un frère, en irritant une sœur, on l'expose à l'accusation du diable. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites quelque chose qui provoque de l'irritation chez votre frère et votre sœur, votre frère et votre sœur va peut-être se trouver à cause de vous. C'est pire encore que ce que vous avez fait de mal. Il va se retrouver à cause de vous en jugement devant le tribunal et accusé par le diable. Alors ça, c'est bon, mais surtout pour les enfants. Alors, les enfants, les adolescents, pourquoi? C'est tellement important, cette situation, c'est tellement grave, cette chose-là, que Jésus relève, que Paul, il va le reprendre deux fois. Il va en parler aux Éphésiens et il va en parler aux Colossiens. Éphésiens 6, 4, il dit « père », mais ça veut dire aussi « mère », mais à l'époque, la mère, elle n'avait pas le droit d'éduquer vraiment ses enfants. Elle avait le droit, c'est un petit peu comme en Afrique, jusqu'à 6, 7 ans, elle le nourrit, elle le torche, elle le lave, mais après, c'est le père qui l'éduque. C'est encore comme ça en Afrique. À tel point que, par exemple, une femme qui s'en va avec son enfant, eh bien, elle a la garde de l'enfant jusqu'à 7 ans, puis après, le père, il peut reprendre son gamin. C'est terrible, hein? C'est la loi comme ça. Bon, à l'époque, c'était aussi un peu ça. C'était le père qui vous donnait l'éducation. Donc, c'est écrit père, mais maintenant, on peut dire père, mère, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. C'est-à-dire, éduquez-les par rapport à la parole de Dieu. Ne leur dites pas, ça ne se fait pas. Il faut leur expliquer avec la parole de Dieu, leur montrant des exemples de gens qui n'ont pas bien fait, qui n'ont pas bien agi avec la parole, selon la volonté de Dieu, puis qui ont été punis, puis qui ont eu des problèmes, puis ceux qui ont obéi, ceux qui ont bien marché. Il faut leur expliquer que, voilà, grâce au fait qu'ils ont bien marché avec Dieu, ben Dieu les a bénis, Dieu les a élevés. Et puis, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? Et puis, dans Colossiens 3, 21, c'est dit, il dit aussi, « Père, mère, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Par rapport à quoi? Par rapport à vous et par rapport à ce que vous leur dites, c'est-à-dire même la parole de Dieu. Si vous êtes sans arrêt dessus, en train de les limer, en train de les embêter, à les reprendre pour la moindre pécadille tout le temps, à les exaspérer sans arrêt, c'est terrible. Les enfants... Vous allez me dire, ouais, mais devant Dieu, le tribunal, bon, un enfant, c'est un enfant. Oui, mais écoutez bien. Si un adulte se jette du 10e étage d'une tour, qu'est-ce qui lui arrive quand il arrive en bas? Il s'écrase. Eh bien, si c'est un enfant, c'est la même chose, parce que les lois, ça marche pour les enfants et pour les adultes, la même chose. C'est des principes. Ça veut dire que les enfants sont soumis aux lois naturelles comme nous, et de même, ils sont soumis aux principes, aux lois du royaume, comme nous. Ça veut dire que si la communication ne se fait pas, si vous les irritez, et s'ils se couchent avec de l'irritation dans leur cœur, sans que ça ait été réglé, pendant leur sommeil, le diable, qui lui ne dort pas, hein, eh bien, il va les accuser, eux, il va accuser vos enfants, parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre soin que quand ils vont se coucher, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. On a parlé, on s'est embrassé, on a fait la prière, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a rien du tout, c'est réglé. L'enfant sait que peut-être il va être puni parce qu'il a désobéi, voilà, alors il ne va pas regarder, il ne va pas pouvoir jouer avec ses jeux vidéo pendant deux semaines, peut-être. Il est puni, il est peut-être triste à cause de ça, mais il a compris pourquoi, vous l'avez expliqué bien comme ça, et il ne va pas se coucher avec de l'irritation dans son cœur. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Et après, le diable les accuse. Et qu'est-ce qui se passe si le diable accuse vos enfants? Il se sert de la parole de Dieu. Dieu, il ne peut pas se battre contre sa propre parole, donc il laisse faire. Et alors après, on emmène les enfants chez les psys, et puis le psy va dire, « Ah, mais s'ils ont tant de problèmes que ça, de comportement, ou à l'école, ou si ou ça, c'est sans doute parce que ça ne va pas bien à la maison, il doit y avoir des tensions. » Mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais ils ont même plus raison qu'ils ne le pensent, parce qu'ils ne savent pas, eux, parce qu'ils ne croient pas forcément en Dieu, qu'à la maison, il y a un processus spirituel qui s'est enclenché et qui détruit les possibilités de succès de l'enfant. Vous voyez la gravité de la chose. Ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas à l'enfant de faire la démarche dans cette histoire-là. C'est vous qui êtes... D'abord, il a péché, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, et vous êtes... Il se sent ramollo, il se sent tout pas bien. Et puis vous êtes fort, vous êtes grand, puis vous avez une grosse voix, puis vous parlez, et ça fait peur, et puis ils sont tétanisés, ils n'ont pas la maturité pour venir en disant « Papa, maman, est-ce que je peux faire la paix avec toi ?» Non, c'est pas... Ils ne peuvent pas. Souvent, ils n'ont pas la maturité même pour vous affronter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Ben, il va s'isoler. Il va se sentir tout seul, il va s'isoler, il va se créer un monde. Hein? Et c'est terrible parce que là, le piège du diable se referme bien sur lui. Il est mal, le gamin. Voilà pourquoi Jésus ne minimise pas les lois de Moïse. Parce que les lois de Moïse, elles font partie de ces lois que Dieu a inventées pour qu'on puisse vivre bien. Mais si on ne met pas en pratique ces lois, ben on vit mal. Alors, non seulement il ne veut pas minimiser les lois de Moïse, mais il ne peut pas minimiser les lois de Moïse. C'est comme si, par exemple, Dieu disait, « Bon, ben voilà, deux fois par an, ben, la loi de la gravité, ça n'existe plus. » Non, il ne peut pas, parce que ça ficherait tout en l'air. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose. Il ne va pas aller contre ses lois. Il a mis des lois pour que tout marche bien. Mais maintenant, si on ne les observe pas, ben, tout marche mal. C'est tout. Non seulement il ne veut pas, mais il ne peut pas minimiser les lois. Parce que les lois, c'est la partie visible de ce qui contribue à notre échec ou à notre succès. C'est ce qui est écrit qui contribue à notre succès ou à notre échec, suivant ce qu'on fait avec l'écrit. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est merveilleux en même temps. Parce que si on connaît, ben, on a toutes les chances pour nous. Si on ne connaît pas, ben, on est bien malheureux sur la terre, hein, comme la plupart des gens. J'ai regardé hier soir un film que Alain nous a prêté, ça s'appelle Les Démineurs, il faut absolument que vous voyez ça, mais la Terre, c'est un furoncle, c'est une horreur, c'est affreux ce qui se passe sur la Terre. Pourquoi? Parce que les commandements de Dieu ne sont absolument pas jamais respectés. Alors, Dieu les livre à eux-mêmes, puis voilà, puis c'est affreux ce film, ça fait... Il faut vraiment voir ça. Faut regarder ça ce week-end. On va regarder ça ce week-end si vous voulez. Enfin, si vous voulez. Moi, je pense que ça serait bien que vous le voyiez. Ça nous met ça soulève beaucoup de questions. Donc, par rapport à ce que Jésus nous donne là, il faut que nous personnellement, pas qu'on dise ah ben voilà c'est bien pour lui, il faudrait qu'il se positionne. Non. C'est à nous, chacun de nous, de se positionner. Chacun de nous. Par exemple, c'est vrai que Colossiens 3.21 existe. Hein? Colossiens 3.21, c'est « Parents, n'irritez pas vos enfants ». Mais Colossiens 2.20 existe aussi. Les deux existent. On va le lire. Colossiens 2.20. Tout se tient. Il n'y a pas de faille. C'est pas seulement « Allez les parents, arrêtez d'embêter vos enfants ». Non. Ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas équilibré. Alors, Colossiens 2.20. Écoutez bien. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père et mère, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Vous voyez, il y a les deux. S'ils n'obéissent pas, c'est sûr que vous allez les enguirlander, c'est sûr que vous allez les reprendre, c'est sûr que vous allez les punir, et c'est normal. Vous jouez votre rôle, c'est normal. Donc, les deux, on leur parle. Les enfants, on leur parle. Vous devez obéir à vos parents. Et puis, la deuxième chose, les parents ont la leur, c'est-à-dire qu'ils doivent obéir à Dieu, qui est notre Père à tous, qui est le supérieur. Dieu est le supérieur de vos parents. S'ils n'obéissent pas à Dieu, ils auront des comptes à rendre. Un enfant qui n'obéit pas irrite ses parents. C'est-à-dire qu'un gamin, s'il n'obéit pas à ses parents, il pousse ses parents dans le tribunal de Dieu, au point que peut-être le diable va accuser ses parents, et ça sera la faute du gamin. Vous vous rendez compte, les enfants, quand vous désobéissez à vos parents, ce que vous faites. Je ne veux pas mettre un fardeau sur vos épaules, mais réfléchissez un petit peu. Vous désobéissez, vos parents se mettent en grogne contre vous, ils partent au lit, ils sont en colère, vous êtes triste, vous êtes malheureux, tout le monde est malheureux dans la maison, et puis vous vous endormez là-dessus parce que vous êtes épuisé par la journée, et pendant ce temps, le diable se frotte les mains, il arrive devant Dieu, il dit « T'as vu ce qui s'est passé là ?» T'as vu le gamin comme il a fait? Tcha là là, quelle graine de voyou! Et puis le père, plutôt que de t'obéir et de faire attention que sa colère ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur sa colère, ben, il est allé au lit avec la colère. T'as vu? Quel bon disciple! Et puis voilà, et puis il commence à accuser, puis il ressort des histoires. Il dit, c'est pas la première fois, c'était déjà arrivé avant, rappelle-toi, comme si c'est comme ça, et vas-y, il vous charge. Et tout ça parce que c'est parti d'une désobéissance du gamin. Le père ou la mère s'est énervé, n'a pas obéi non plus à Dieu, et puis c'est la pagaille dans la famille. Et puis Dieu ne peut plus rien faire. Alors vous pouvez faire vos sacrifices de louange, vous pouvez faire vos sacrifices de prière, ça ne fait plus rien. Dieu ne peut pas agir contre sa parole. Vous voyez? Vous comprenez comment c'est important? Donc ça, c'est la part des enfants. Les parents qui ne décolèrent pas et envoient leurs enfants se coucher, ils pêchent. Et le diable les accuse. Parce que l'enfant est irrité contre ses parents, et le diable va accuser, l'accuser devant Dieu. Le diable, il mène le bal. Il est tout content. Tout ça pour une bêtise. Le diable est tout content. Là où la loi ne règne pas, là où la loi de Moïse, amplifiée par Jésus, ne règne pas, eh ben, le diable mène le bal et il est tout content. Tout ça, c'est très complexe. Mais en fait, c'est à chacun selon sa mesure et à chacun selon sa maturité. Tout ce qu'on a à comprendre, on le comprend. Tout ce qu'on doit comprendre, on le comprend. Tout ce qu'on doit faire, on est capable de le faire. Si Dieu dit qu'on doit faire, il sait très bien qu'on peut le faire. Sinon, il ne nous donnerait pas l'ordre de le faire. Donc, ne soyez pas effrayés en disant « ça me dépasse ». Non, 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 ça ne te dépasse pas. Ne fais pas l'idiot, ça ne te dépasse pas. C'est possible. Si Dieu dit « tu dois faire », ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de faire. Si tu dis « d'obéir », c'est qu'il t'a donné le pouvoir d'obéir. Ne dis pas « non, c'est plus fort que moi ». Ça, c'est un mensonge du diable. Ne te décourage pas. Amen. Donc, tout ça, ça nous rend responsables, ça fait de nous des êtres qui mûrissent, et c'est ce que Jésus veut faire ressortir là, dans son sermon sur la montagne. Ce n'est pas un petit sermon comme un petit sermon d'un pasteur qui arrive et puis qui vous balance son histoire. Non, 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 non. C'est LE sermon. C'est LE grand sermon. Alors, de même dans l'histoire de Moïse aussi, on a parlé des enfants, on a parlé des frères qui peuvent se chipoter, on a parlé des parents et des enfants qui peuvent se chipoter, mais de même, dans la relation Moïse, quand il s'est mis en colère, vous vous rappelez, il s'est mis en colère, et il a péché dans sa colère, mais l'origine de sa colère, ça venait du peuple juif, qui, encore une fois, avait manqué de foi, et rouspétait, n'était jamais content, puis ils se sont pris à Moïse, et Moïse a péché, Moïse était irrité, exaspéré. Quoique la Bible nous dit qu'il n'y a aucun homme qui était aussi patient sur la terre que Moïse. Nombre 12, 3. Alors si Moïse a péché dans la colère, quoi qu'il soit l'homme le plus patient du monde, eh ben, ça vous donne une marge, mais attention, ça ne vous donne pas d'excuses, mais ça vous donne la possibilité de vous corriger en se disant, bon, ben, Moïse, il a aussi fait la bêtise, donc moi, je ne suis pas plus fort que Moïse, mais je vais quand même m'efforcer de faire des progrès. Amen. D'accord. Mais vous voyez, Jésus fait ressortir le fait que nous sommes tous responsables. Tous responsables. Devant lui, tous responsables. Je vous rappelle, Raphaël, quand il a prêché le premier soir, quand je me suis converti, il a dit, on peut tromper son mari, on peut tromper sa femme, on peut tromper les gens, on peut tromper le pasteur, on peut tromper le curé, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il avait raison, on ne peut pas. Dieu, il voit tout. Donc, on est responsable de certaines choses devant les gens parce qu'il nous voit, mais aussi et surtout responsable devant Dieu qui voit tout. Donc, il faut arrêter, écoutez bien ça, c'est très important, de se placer en victime ou en coupable. Il faut arrêter ça. Ça, c'est vraiment, vous savez, c'est le problème du bien et du mal. Il faut arrêter de se placer en victime ou en coupable. Le modèle, c'est Jésus. Jésus était victime, mais il pleurnichait pas sur lui-même. Il pleurait sur ses bourreaux. Et il priait pour eux. Vous voyez le modèle? Ça, c'est le modèle à suivre. Il n'a pas dit, oh, après tout le bien que je vous ai fait, après tous les efforts, et puis voilà ce que vous me faites. Non, il ne s'est pas placé en victime du tout, et puis surtout pas en coupable, mais il n'a pas placé les gens en coupable non plus, mais en victime du diable. C'est pourquoi il priait pour eux. Avec l'histoire de la dette, Jésus veut nous faire comprendre que arriver au tribunal, ça sera trop tard. Il dit, c'est en chemin qu'il faut s'arranger. En chemin. Parce qu'au tribunal, quand on est là, ah, c'est fini. Le processus de la justice est enclenché. Hein, il dit, ah, ça c'est qui va arriver, puis cela qui va arriver, puis tu vas finir en taule. Le processus de la justice est enclenché et tu vas devoir payer. Bon. Alors, qu'est-ce que Jésus nous exhorte à faire? Eh bien, il nous exhorte à nous arranger avec l'adversaire, à nous arranger, à plaider notre cause, à nous arranger à l'amiable, à être conscient, à essayer de trouver voilà, quelque chose pour que ça s'arrange, qu'on ne soit pas obligé, que sur les marches du tribunal, on se serre la main et on dit, bon, on va arranger ça entre nous, on ne va quand même pas pousser ça jusqu'au tribunal. Ça, vous trouvez au verset 25. Parle avec ton adversaire. Pas avec le diable, mais je dis avec ton adversaire humain, parle, communique, plaide ta cause avant que ça soit trop tard. Arrive au tribunal, c'est trop tard. Alors Jésus, il veut notre bien à tous, et c'est pourquoi il nous enseigne il nous enseigne. Et nous devons être enseignés. C'est pourquoi il a donné des ministères de la parole pour enseigner ces choses en profondeur. Vous savez, au tribunal de Dieu, les vrais disciples, les monakos, comme dit l'évangile de Thomas, pour ceux qui sont curieux de savoir ce que ça veut dire monakos, ben vous allez sur Révélation Bible et puis vous cherchez dans l'évangile de Thomas, puis vous aurez toutes les explications de ce que c'est qu'un monakos. Vous voyez, je me fais ma pub. Eh bien, les vrais disciples ne seront pas perdus. Non, non, ils ne seront pas perdus. C'est les siens, c'est ceux, Jésus est mort pour eux, ils ne seront pas perdus. Mais il y aura un jugement et il y aura des récompenses, mais il y en a aussi qui seront châtiés tout de même. Je veux dire quelque chose de terrible, c'est un verset qu'on n'aime pas beaucoup dire, mais il y en a qui vont se prendre des coups. Ah bon? Chaque fois que je dis ça aux chrétiens, je les vois. Ils me regardent comme ça. Ah bon? Je dis oui, et puis je dis le verset, ils sont étonnés. Jeter en prison, il y a, avant de rentrer dans le paradis, il y a une prison quand même un moment. Hein? Jusqu'à ce que tu aies payé tout ce que tu dois, jusqu'à ce que ça soit réglé selon l'ordre de Dieu. Jusqu'au dernier cadran. Le cadran, on ne sait pas exactement avec la cour de la bourse à l'heure actuelle, mais d'après les dictionnaires au sujet de la monnaie, de toutes ces choses-là, on peut dire que c'est un cadran, c'est le quart d'un centime d'euro, et ce n'est pas grand-chose. Hein? Eh bien, tu devras tout payer. Tout payer. Tu ne sortiras pas de là avant que tout soit payé. Luc 12, 47 nous dit, Jésus nous dit, on dit Luc 12, 47, mais c'est Jésus qui dit dans Luc 12, 47 que si nous connaissons la volonté de Dieu, on a pris connaissance encore de choses qu'on ignorait, ou qu'on savait mal, ou qu'on n'avait pas bien approfondi. Si nous connaissons la volonté de Dieu et qu'on ne fait rien en vue de cette volonté, qu'on connaît, on sera jugé et condamné à recevoir de nombreux coups. Voilà, c'est là, Luc 12, 47. C'est pour qui ce verset? C'est pour ceux qui connaissent la volonté de Dieu et qui ne la font pas. En tant que disciples de Jésus, en tant qu'élus, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que tout ce que vous voulez, véritable serviteur de Dieu. Oui, mais on a truqué avec la parole. Eh bien, tu ne sortiras pas de ce tribunal comme ça facilement. Non, non, non. Tu vas te prendre des coups. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui le dit. Alors on ne rigole pas avec Jésus. On ne rigole pas avec la loi de Moïse, on ne rigole pas avec Jésus. C'est écrit, aussi bien que Jean 3, 16, c'est écrit. Alors, quand on lit attentivement, on s'aperçoit de ces choses, mais quand on lit superficiellement, quand on choisit les textes qui nous font plaisir, bon, on passe à côté, il ne faut pas passer à côté. Quand on lit par exemple attentivement Matthieu 5, là, dans les textes que je viens de lire tout à l'heure, on constate que le premier exemple que Jésus donne, vous savez, si ton frère a quelque chose contre toi, puis que tu es là devant l'autel avec tes sacrifices, laisse tout devant l'autel, puis va t'arranger avec ton frère. Là, il est question de frères, de relations entre frères, frères et sœurs. Dans le deuxième exemple, il est question d'un adversaire. Ce n'est pas un frère, là. C'est quelqu'un, un terrien, quelqu'un du monde. Quelqu'un du monde qui a quelque chose contre toi, puis qui te traîne au tribunal. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais on se dit nous-mêmes dans notre petite tête à nous, bon, Dieu, il voit bien, c'est avec un frère, ça veut dire qu'il ne va quand même pas juger la même chose qu'avec un païen. Ben, pas du tout. Pas du tout. La leçon que Jésus donne pour les deux cas, c'est identique. Et c'est quoi la leçon? Arrange-toi rapidement. Arrange-toi rapidement. C'est ça, en fait, que Jésus veut nous dire dans tout cela. Arrange-toi rapidement. Voilà les instructions que Jésus donne par rapport au sixième commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Une phrase comme ça. Voilà ce que Jésus donne comme explication. Voilà ce que Jésus donne comme instruction par rapport à ce, tu ne tueras pas. Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Alors, il faut qu'on prenne garde à ça, et puis qu'on évite de commettre quelque chose qui, aux yeux des gens, peut être anodin, mais qui, aux yeux de Dieu, a la même valeur qu'un meurtre. Soyons donc des monakos, des gens de prière, des gens qui offrent des sacrifices de prière et de louange à Dieu, des gens qui, des monakos, des disciples de Dieu, qui confessent le nom de Jésus-Christ partout et en toute occasion, favorable ou non, mais avec un cœur libre de toute accusation. Hein? Avec un cœur libre de tout ça, purifié de toute colère, de tout ressentiment. Et puis, voilà, on dit les choses, on s'explique. Bon, des fois, vous avez vu, il parle aussi, des fois, ce n'est pas possible. L'autre partie ne veut pas. Mais au moins, vous, vous aurez fait ce qu'il fallait faire pour que... Il ne faut pas dire, j'ai fait ce qu'il faut, mais maintenant... Non, il faut aller jusqu'au bout. Jésus a dit, il a donné jusqu'à sa vie pour pouvoir nous réconcilier. Donc, il faut faire tout ce qui est dans notre mesure de faire pour qu'on soit paisible nous-mêmes, personnellement, dans notre cœur. Si l'autre partie s'endurcit et ne veut vraiment pas, bon, ben là, vous êtes libre. Dieu le voit, Dieu le sait aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et à atteindre cette sagesse, à atteindre cette sérénité, à atteindre cette sagesse, oui. Et puis de pouvoir, non pas avoir la sagesse, mais être sage. Ça, c'est tout un travail. Vous savez, quand on visite la parole de Dieu comme ça, c'est... Ah, beaucoup de gens disent, c'est la parole de Dieu, c'est merveilleux, c'est beau, c'est bien. Mais quand on rentre dedans, c'est d'une profondeur, ça peut même des fois donner le vertige. N'est-ce pas? Et c'est pour beaucoup de choses comme ça. J'ai raconté à ma femme une petite histoire cet après-midi, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais quand même un tout petit peu. Je vous la raconte? Vous voulez l'histoire? Et la foule dit, oui. Alors voilà. C'est un homme, un chrétien qui meurt, et puis il arrive aux portes du paradis, et puis il rentre, parce que ben, il peut rentrer, c'est bien. Et il arrive là, et puis il y a des beaux paysages, des belles petites maisons, des fleurs, les gens sont tous beaux, puis ils se disent bonjour, ça va, oui, bien, bonne journée. Et puis alors il y a des petits oiseaux, ça va, un petit peu comme dans Blanche-Neige, vous savez, les petits oiseaux qui viennent, puis les biches, puis tout ça, puis enfin, c'est le paradis, il y a une petite musique douce, et puis c'est la grande sérénité, le grand calme, et puis chacun a sa maison construite par Jésus, hein, c'est écrit. Alors, bon, le soir, ce monsieur, bon, il va se coucher dans sa propre maison, parce que Jésus l'a bâti une maison, donc il se couche dans sa maison, et puis c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la paix, c'est tranquille. Puis au moment où il s'endort, il, quand même, il aperçoit un petit bruit bizarre, il entend... Puis il dit, mais ça vient d'où ça? On dirait que ça vient en dessous de la maison. Bon, il s'endort. Et le lendemain, il rencontre Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit, donc, c'est formidable ici, mais j'ai entendu un drôle de petit bruit hier soir dans ma maison. Ça faisait tom, 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 tom. Et puis Pierre dit, ah oui, mais c'est ceux d'en bas. Il dit, mais comment ça, ceux d'en bas? Ben oui, un enfer. Ah bon, c'est un enfer. Mais c'est comment l'enfer? Il dit, tu vas aller voir. Pierre dit, tu vas aller voir. Si tu veux, tu peux. Hein. T'es libre, tu peux aller voir. Donc le bonhomme, il dit, ben, je vais aller faire un petit tour en enfer pour voir. Donc, il arrive en enfer, on ouvre la porte, et puis il voit des super femmes, des super bonhommes, et puis des belles bagnoles, et puis des hôtels magnifiques, des palmiers, c'est beau, puis il y a de la musique, tom, 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 tom. Les gens qui dansent, et qui se droguent, et qui s'amusent, et qui rigolent, tout le monde est bien, tout le monde est super. Alors, il est là, il dit, oh, c'est génial l'enfer, c'est mieux qu'au paradis, cette sérénité un peu mielleuse, moi j'aime mieux ici, c'est mieux. Donc, il rentre, puis on parle avec Pierre. Puis Pierre lui dit, oui, je sais, il y a des gens, selon leur nature, ils préfèrent ça, mais bon, ici, c'est très différent. Puis l'autre dit, mais je ne pourrais pas choisir d'aller vivre en enfer, parce que finalement, je trouve que c'est quand même plus sympa. Pierre lui dit, si tu veux, si ça correspond à ta nature. Oui, mais seulement réfléchis bien, parce que une fois que tu as décidé, c'est décidé, tu ne peux plus revenir. L'autre dit, c'est tout vu, hein, j'ai vu, c'est génial, moi je vais y aller, c'est génial. Donc, il part en enfer, puis tout le monde dit, au revoir. Enfin, pas au revoir, adieu, puisque s'il part en enfer, c'est fini. Puis il arrive en enfer, la porte s'ouvre, à peine il franchit, il se fait mordre aux fesses par un démon. Tout ça va pas, quoi ? Un démon qui le mord, mort. Alors il continue, il marche, et puis là, il voit des gens qui sont... puis ils ont des plaies purulentes, et puis tout est décrépit, tout est moche. Il dit, mais c'est affreux, mais c'était pas comme ça hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il demande à voir le diable, alors il a une audience, et il vient vers le diable, il dit, mais comment ça se fait? Hier c'était génial, tout le monde dansait, il y avait la musique, c'était super, et puis là c'est affreux. Puis le diable lui dit, mais c'est ça la différence entre le tourisme et l'immigration. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma prédication? Ben, il y a des gens, ils sont touristes dans la Bible. Ah, oh, c'est génial, aimez-vous les uns les autres, Jésus m'aime, Jésus me sauve, Jésus me guérit, alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, il est lent à la colère, il est miséricordieux, c'est génial, je veux devenir chrétien. Mais quand on devient vraiment chrétien, qu'on a vraiment changé de pays, qu'on a tout abandonné pour suivre Dieu, c'est autre chose. C'est pas que c'est l'enfer, Mais il y a quand même, c'est pas seulement Jésus même, alléluia, il répond à toutes nos prières, il est là à mon service pour me donner tout l'argent dont j'ai besoin, puis toute la santé, puis que tout ça. Non, il y a des commandements. Alors voyez, j'espère que vous ne choquez pas avec mon histoire, mais je pensais qu'il fallait quand même que je vous la place, parce que ça fait réfléchir. On se met debout et on prie. Merci Seigneur Jésus de bénir ces quelques paroles que j'ai pu dire à mes frères et sœurs. Et qu'on ne se comporte pas en touriste avec ta parole. Nous ne trouvons que les choses belles, les choses gentilles, les choses sympas, les choses luxueuses. Mais qu'on trouve aussi la profondeur et les choses qui font qu'il y a un ordre, une loi qui nous oblige, qui nous contraint à marcher droit. Et Seigneur Jésus, permet que nous puissions prendre conscience de ces choses-là avec tout notre cœur et on marche selon tes commandements et non pas simplement avec toutes les belles promesses. Merci Jésus. Amen. Amen.